le maire de votre commune, qui est Entremont-le-Vieux, c'est dans le département de la Savoie. Combien d'habitants ?
600.
Vous êtes conseiller général également de la Savoie, un canton qui a quelle population ?
4500 habitants.
Et je l'ai dit en vous présentant tout à l'heure, vous êtes vice-président du parc naturel régional de la Chartreuse. Alors pour que ça soit clair chez nos amis, le parc naturel de la Chartreuse, il est sur une frontière. Alors une frontière qu'il faut préciser. Elle est départementale, entre la Savoie et l'Isère, elle est historique. Le royaume de Savoie a survécu jusqu'au Second Empire, c'est le regroupement de la Savoie à la France, c'est 1860. Donc, de date récente, alors que l'Isère, c'était le Dauphiné, le territoire du fils du roi. Bien. Donc, on est sur une frontière historique, administrative, mais on est aussi sur un territoire qui a une identité naturelle, humaine, historique, extraordinaire. Deux mots de la Grande Chartreuse et de sa spécificité pour nos amis qui n'ont pas encore eu la joie de la visiter.
Oui, bonjour à tous. Donc ce territoire de Chartreuse, vous l'avez compris, pendant très longtemps, il a vécu sur cette frontière historique et avec des deux côtés de la frontière, pas forcément des relations étroites jusqu'en 1860. Les choses ont commencé à s'améliorer dans les années 1960 seulement, où les acteurs du territoire commençaient à se parler. Alors, vous l'avez dit...
Un siècle pour se parler.
Oui. C'est un territoire qui présente cette particularité, d'être une entité géographique. C'est un massif préalpin qui se situe entre le massif du Vercors et le massif des Bauges, qui est le plus petit des massifs préalpins, mais qui a cette particularité d'être à proximité de grands centres urbains, Grenoble au sud, Chambéry au nord et à l'ouest, Voiron. Donc ça, c'est déjà une donnée qui est très importante parce que territoire montagnard, mais encerclé par des communautés urbaines très très importante. C'est un territoire, vous l'avez rappelé, qui a un potentiel très très important, potentiel naturel, des paysages remarquables qui ont été entretenus par des générations de cultivateurs, une biodiversité exceptionnelle puisqu'on doit retrouver plus de 2000 espèces végétales qui représentent 20% du potentiel national, la moitié du potentiel en termes d'animaux et d'oiseaux, et de faune et d'oiseaux, voyez. Donc ce territoire marqué également par la présence de l'ordre des Chartreux qui, eux, justement, ne connaissaient pas ces frontières, mais qui, sur le plan religieux, ont marqué malgré tout le territoire et qui l'ont marqué, y compris sur le plan économique.
Dès le 11e siècle, si je me
trompe. Oui, c'est ça. 9 siècles de présence de l'ordre des Chartreux à Saint-Pierre de Chartreuse. Et donc, ils l'ont marqué sur le plan des valeurs très fortes, qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais aussi en termes de développement. Je parlais de l'agriculture, mais également de la forêt, et également dans le domaine de la métallurgie, puisqu'à une époque, les Chartreux étaient maîtres de forge également.
Alors, quand ce territoire s'est en quelque sorte redécouvert, avec 100 ans de retard, au-delà des accords politiques qui l'ont en quelque sorte reconstitué, qu'est-ce qu'a été la démarche de projet territorial ? Comment elle est née ? Et qu'est-ce que ça représente dans la responsabilité politique, en particulier d'élus, de gérer un projet de cette nature ?
Eh bien, ce projet de territoire, il est né du fait que, rapidement, les acteurs se sont rendus compte que si rien n'était fait pour conforter cette identité territoriale, le territoire, finalement, partait de chaque côté, Grenoble, Chambéry, Voiron, étaient disloqués. Et que cette entité, disparaissant dans des très grosses agglomérations, elle avait toutes ses chances de ne pas perdurer. Et à ce moment-là, il y a eu une volonté des acteurs. Un projet de parc naturel régional a cet avantage-là, c'est que pour arriver à un parc naturel régional, c'est pas quelque chose qui est imposé au territoire. Il faut qu'il y ait une volonté ascendante des acteurs de ce territoire et une volonté conjuguée à la fois, bien sûr, des élus du territoire, mais pas seulement. C'était une volonté de l'ensemble des partenaires socio-professionnels, monde associatif et habitants également. Et pour vous donner une échelle de temps, le projet a mis plus de 4 ans pour se mettre en place, puisqu'il a fallu une association de préfiguration qui a fait tout ce travail, et ce travail qui est très très important au préalable, de savoir ce qu'on veut faire de ce massif, un projet partagé, et surtout comment on va le piloter derrière, avec un slogan fort qui était inscrit dans la première charte, qui était « Pas de parc sans agriculture », parce que, vous l'avez tous compris, dans des secteurs de montagne, je vous ai dit que le massif de Chartreuse s'étageait jusqu'à 2000 mètres d'altitude. En secteur de montagne, c'est une activité qui reste très fragile, et là, la volonté forte, puisque ça conditionnait, y compris toutes les autres parties du développement, les autres domaines de développement de ce massif, notamment le développement touristique, sans agriculture, il n'était pas question de faire ça. Donc, c'est l'ensemble des acteurs qui ensuite ont inscrit dans une charte leurs priorités, mais une définition et une concertation très très importante. Et cette charte, eh bien, elle a l'avantage ensuite de piloter un peu le développement local, parce que un parc naturel régional, enfin, nous on le considère pas de cette façon, c'est pas lui qui doit faire les choses lui tout seul, c'est pas une collectivité territoriale supplémentaire, une couche supplémentaire, mais c'est une mise en mouvement des acteurs, alors que ce soit les collectivités, mais aussi tous les partenaires qui ont été mis en avant. Alors, le parc a joué un grand rôle, et d'entrée, il y a eu une volonté très forte de regrouper tous les acteurs de l'agriculture au sein d'une même association, les sylviculteurs, les acteurs du développement touristique, maintenant une plateforme de toutes les associations environnementales, des acteurs, des professionnels des métiers, des prestations de services en matière d'accompagnement en montagne. Vous voyez, de regrouper ces gens-là et de, à partir de là, de créer aussi une mutualisation, parce que il n'est pas dans l'objectif d'un parc naturel régional de refaire ce que d'autres font sur le territoire. Et par exemple, dans le domaine de l'agriculture, eh bien, l'exemple, ce qui a été fait, c'est mutualiser les moyens humains avec la chambre d'agriculture sur le territoire. Donc là, le personnel qui était recruté en partenariat, et c'était des gens qui dépendaient de la chambre d'agriculture, mais dont le parc naturel régional assurait l'hébergement et une partie du financement. Donc c'est une volonté de diffuser avec l'ensemble des partenaires sur ce territoire-là.
Alors cette synergie d'acteurs que vous m'avez bien expliqué dans sa dynamique et dans ses difficultés au téléphone, c'est un exercice où les responsables politiques s'ouvrent sur une société civile assez large, contrastée dans ses responsabilités, dans ses choix, dans ses cultures. Vous en avez gardé quelle impression ? C'est rude comme exercice ? C'est riche comme exercice.
C'est un exercice qui est très riche, parce que dans la mesure où on fait participer le plus grand nombre de personnes à l'élaboration d'un projet partagé sur le territoire, et que ces acteurs continuent à prendre leur place. Alors là, il y a des difficultés, parce que il y a un syndicat mixte qui ne représente que les collectivités territoriales et les élus. Il faut trouver les moyens auprès des structures que je vous citais tout à l'heure de pouvoir en permanence les associer, et que les projets sont déterminés ensemble et notamment inscrits dans cette charte. Ensuite, eh bien, il faut effectivement, sur les territoires, continuer à animer ces relations. Et on retrouve sur une partie de ce territoire, à côté, par exemple, des communautés de communes, des structures associatives qui regroupent les élus, mais aussi tous les partenaires socio-professionnels et associatifs. Et ça aussi, c'est le gage de pouvoir avoir une diffusion et justement une remontée de toutes les préoccupations du territoire, et de remettre, eh bien, dans une société où de plus en plus on voit aujourd'hui que les gens sont déconnectés de leur avenir, de remettre le plus grand nombre de personnes au cœur des préoccupations, et qu'ils traitent aussi et qu'ils fassent part de leurs préoccupations et de leurs projets.
Si vous deviez tirer un premier bilan un peu de cet effort acharné, je dirais, pour construire ces synergies d'acteurs, qu'est-ce qui est déjà perceptible aujourd'hui, et qu'est-ce que vous espérez, disons, à délai raisonnable encore ?
Eh bien, la Chartreuse a survécu. C'est déjà ça, puisque cette entité, ce passif, aujourd'hui, il est pris en compte, et il est pris en compte dans le cadre aussi de solidarité financière, parce que dans des secteurs comme ça, c'est toujours très difficile, de solidarité financière et dans une originalité par rapport à nos autres partenaires, que ce soit les départements, la région, l'État, voire l'Europe, de pouvoir mettre en place des programmes pluriannuels où les objectifs, même si c'est un programme qui dépend plus de la région ou du département, les objectifs sont communs et aujourd'hui on entend beaucoup parler de rigidifier les compétences de chaque structure. Eh bien là, les partenaires autour de la table définissent ensemble un projet et mettent des moyens financiers adaptés, mais en concertation. Et ça, c'est un énorme pas d'avoir cette cohérence territoriale et sur des objectifs qui ont été très clairement définis et qui peuvent être discutés par les acteurs même du territoire. Parce que on s'aperçoit aussi que parfois des programmes ou des volontés de nos partenaires collectivités territoriales supérieures ne correspondent pas toujours à ce que souhaite le territoire. Là, ce sont les gens. Ça, c'est un acquis important du territoire. Et puis, les effets, on les sent, notamment en matière d'agriculture. Le premier slogan du parc qui était pas de parc sans agriculteurs, une seule coopérative restait, vous savez, la tradition dans les milieux montagnards, c'était des coopératives qui vendaient le lait à un fruitier en début d'année. La seule coopérative qui restait se trouvait, disons, pratiquement acculée, à fermer, puisque elle ne correspondait plus aux normes européennes. Qu'est-ce que ça a suscité, le parc? Eh bien, c'est que les agriculteurs membres de cette coopérative ont repris la coopérative en gestion directe. C'est-à-dire qu'ils ont pris en main leur outil de travail, ils l'ont complètement restructuré, là bien entendu avec l'appui du parc, et aujourd'hui, eh bien, cette coopérative, elle joue un rôle capital pour une partie du massif, et notamment la partie la plus haute montagneuse. Elle joue un rôle fondamental, mais elle a aussi fait en sorte que les produits de cette coopérative soient d'une part des produits de qualité, ce qui va de soi, ou la traçabilité par rapport aux consommateurs avec un cahier des charges très rigoureux est fait. Elle a réussi, dans le cadre d'une SICA, à mettre en place un magasin de vente, ce qui permet de voir la conjonction avec le tourisme et d'avoir une partie de nos produits écoulés par l'activité touristique. Et je vous citerai simplement une petite anecdote. Le magasin de vente de la SICA dans ce village de cette commune d'Entremont-Lieu de 600 habitants, mais le village chef-lieu fait moins de 100 habitants. Le magasin de vente fait un chiffre d'affaires de 750 000 euros aujourd'hui. Et lorsque le parc a commandé, en liaison avec la Chambre d'agriculture, une étude sur les magasins de producteurs, eh bien, le bureau d'études nous a avoué que, franchement, si le magasin n'avait pas existé et si on était simplement projet, il nous aurait jamais incité à faire un tel magasin. Donc c'est la preuve que lorsque les politiques sont coordonnées, et là c'est agriculture, tourisme, eh bien on peut faire vivre des activités importantes. L'autre aspect positif du parc, et aujourd'hui c'est pour moi l'aspect le plus important, c'est sur le foncier et l'organisation de l'espace en général. Sur des secteurs comme nous, il est bien évident qu'il y a une attractivité quand même résidentielle du fait de la présence des agglomérations. Et aujourd'hui, le parc là-dessus nous aide énormément. C'est de faire en sorte qu'on préserve les espaces fonciers pour l'agriculture notamment, parce que ce qui peut se passer, c'est que les terres à peu près plates, et Dieu sait si chez nous il n'y a pas beaucoup de plats, partent pour des constructions et puis qu'on laisse aux cultivateurs des terrains impossibles. Donc là, il y a une forte volonté en matière d'urbanisme d'essayer de faire en sorte qu'on ait un urbanisme et une gestion de l'espace qui soit à peu près équilibrée. Alors,